Chers auditeurs, bienvenue sur les nouveaux chemins du vendredi.
Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez sans preuve. Parfois, c'est pareil.
Bienvenue sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée. Pensée classique ou pari fou, philosophie première ou transdisciplinaire, notre seul but est de vous faire voyager encore et toujours sur les chemins de la connaissance. Et en cette année de campagne électorale, les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie que vous retrouvez à 10h50 du lundi au jeudi, se transforment cette année tous les vendredis en petits précis philosophiques à l'usage des candidats. Vous la retrouverez donc aujourd'hui en fin d'émission pour donner quelques conseils avisés à François Fillon. Et aujourd'hui aussi, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Veuclin, directeur du département de philosophie à l'Université de Reims, fondateur et directeur du groupe international de recherche sur Nietzsche, à l'occasion de la parution de son dernier livre au titre énigmatique emprunté à Nietzsche, « Oui, l'homme fut un essai, la philosophie de l'avenir selon Nietzsche » aux éditions PUF. Bonjour à vous Patrick Veuclin.
Bonjour Adèle. Ce que Nietzsche appelle la philosophie de l'avenir ne désigne donc pas un genre spécial de philosophie. Elle n'en est ni une application particulière, ni une variante, ni une mutation. Elle n'est pas davantage le produit d'une recherche délibérée d'originalité, encore moins un effet de mode. Elle est la philosophie tout court. La philosophie qui se met enfin en accord avec son exigence de radicalité en matière de questionnement. La philosophie qui prend pour objet de réflexion ce qu'il y a de plus radical, ce qui conditionne toute pensée, et plus largement toute activité humaine, le mode de conditionnement lui-même, car c'est cela que Nietzsche désigne par le terme de « valeur ». La philosophie qui de ce fait en épouse la logique même. Si ces conditions d'existence en sont, c'est en ce qu'elles prétendent fixer pour l'homme une manière de vivre qui assure, de manière optimale, sa stabilité, sa solidité, et donc sa capacité de durer, son avenir. Voilà la question à laquelle la philosophie est inéluctablement menée du fait de la nature de son ambition. Au sein du texte de Nietzsche, le terme « avenir » ne renvoie donc pas uniquement au cours des événements situés au-delà du présent, mais bien plutôt à la capacité d'une manière particulière de vivre, à perdurer, à se développer et surtout à s'intensifier, c'est-à-dire à s'épanouir.
L'enjeu des 10 articles que l'on trouve dans votre livre, Patrick Veuclin, est d'évaluer la nouvelle définition de la figure du philosophe que propose Nietzsche. Et pour ce faire, vous partez de cette idée de la philosophie de l'avenir selon Nietzsche. Vous venez de lire un extrait du début de votre ouvrage où vous montrez que l'idée de l'avenir n'est pas une manière de tourner le dos au présent, mais au contraire d'intensifier ce rapport au présent. Comment est-ce qu'on comprend ça ?
Oui, là, vous avez raison. L'un des aspects du problème se trouve là, effectivement. Il s'agit de ne pas vivre, en quelque sorte, le rapport au présent simplement sur le mode du rejet, du refus ou de la critique, ce que Nietzsche, à un certain niveau, pratique également. Mais ça ne doit pas être un geste ultime et définitif. Il s'agit de vivre ce rapport au présent de manière à en faire une promesse d'avenir, hein, c'est-à-dire de réfléchir sur, finalement, l'organisation de la vie humaine et les facteurs sur lesquels il est possible d'agir pour assurer un développement optimal, disons, à l'humanité à venir, puisque c'est de cela que le philosophe doit se préoccuper fondamentalement, selon Nietzsche. C'est la raison pour laquelle il est toujours modélisé à partir de la figure du médecin, médecin de la culture. Donc, on trouve effectivement, vous avez raison de le souligner, un type de rapport au contemporain qui est assez différent de ce qu'on voit chez les autres philosophes.
Alors, en quoi se distingue-t-il des autres philosophes, notamment dans sa définition même de la philosophie? Puisque c'est le point de départ de votre livre, oui. Et c'est tout l'intérêt de la philosophie de Nietzsche en réalité.
Oui, vous avez parfaitement raison. C'est tout l'intérêt de la philosophie de Nietzsche, et je dirais même que sans cela, Nietzsche ne serait tout simplement pas philosophe. Mais il est philosophe, il l'est vraiment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les commentateurs ont souvent été surpris, on s'est demandé pendant assez longtemps s'il l'était, s'il l'était pas. Il ressemble très peu aux autres philosophes, effectivement. Et en particulier, je le dis et le répète tout le temps, j'ai eu l'occasion, je crois, de le dire en discutant avec vous précédemment, il y a une grande difficulté d'accès au texte de Nietzsche qui tient à la manière dont il écrit. Apparemment limpide, en réalité extrêmement complexe. Si on parvient à passer ce premier écueil, et il y a des moyens d'y parvenir, fort heureusement, eh bien on arrive à la chose suivante, c'est ça qui a constitué le point de départ de ses réflexions. Nietzsche, effectivement, ne prétend pas tourner le dos à la philosophie. Il remarque quelque chose qui est beaucoup plus original, c'est le fait que les philosophes n'ont en réalité jamais été fidèles au programme qu'ils avaient défini comme étant celui de la philosophie. Ce programme commence à être défini et fixé par Platon. C'est Platon qui fixe l'idée de philosophie, le premier. Avant, il y avait de la sagesse, des pensées, bien entendu, mais philosophie au sens strict, ça se fixe avec Platon. Nietzsche maintient l'idée qu'il trouve, il trouve que c'est une idée à la fois pertinente et généreuse, effectivement, que l'idée de la philosophie, mais il fait remarquer, c'est de là que je suis parti, que les philosophes n'ont jamais tenu véritablement le programme qu'ils avaient fixé. Et cela, ce qui est plus intriguant, sans même s'en rendre compte.
Alors quel était-il ce programme ?
C'est ce que j'appelle la radicalité en matière de pensée, à laquelle l'extrait que nous venons de lire fait allusion. La philosophie se fonde d'abord dans le platonisme par référence à ce qu'on appelle à cette époque la science et par opposition à la doxa, c'est-à-dire à l'opinion, comme rejet généralisé, impitoyable des croyances, des éléments d'adhésion subjective, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient subjectifs, personnels, culturels, généraux. Bref, la philosophie, c'est la pensée radicale en ce qu'elle n'admet, elle ne reçoit pour acceptable que ce qui a fait l'objet d'une validation, d'une démonstration universellement acceptable. Elle prétend donc tout interroger, tout questionner, tout passer au crible et avant de valider, d'accepter quoi que ce soit. C'est un très beau programme que cette radicalité en matière de pensée. Nietzsche juge que c'est un programme qui est tout à fait légitime, mais qui malheureusement n'a jamais été véritablement appliqué par les philosophes. C'est cela, au passage, qui explique la nature très spéciale du rapport de Nietzsche avec les autres philosophes et également le caractère très atypique de sa pensée.
Lui-même propose une nouvelle définition de la philosophie qui en réalité n'est pas nouvelle en ceci qu'elle ne diffère pas de la première, mais au contraire essaye d'y être le plus fidèle possible. Et ce faisant, c'est ça qui est complètement dingue quand même quand on lit les textes de Nietzsche, il s'oppose, il prend ses distances avec toute une histoire de la philosophie qui, selon lui, a contribué à identifier le philosophe à une espèce de prêtre ascétique. Ce sont les termes de Nietzsche.
Oui, absolument. De prêtre ascétique, les choses commencent en quelque sorte à se dérouter assez rapidement dès Platon lui-même. C'est à partir du moment, si vous voulez, où on établit une identification entre la demande de radicalité et la recherche du vrai. Donc à partir, pour parler plus simplement, à partir du moment où on définit la philosophie comme recherche de la vérité, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à trahir cette exigence. Ça n'est pas évident, évidemment, de comprendre pour quelles raisons la demande de vérité, le fait de régler la pensée sur la recherche de la vérité, ne constitue finalement pas un geste aussi radical qu'on pourrait le croire. Il faudra tout le génie, la puissance d'investigation de Nietzsche pour parvenir à le montrer. Mais le point de départ est effectivement bien celui-là. D'où le fait que Nietzsche le dise parfois de manière assez directe et assez crue, il n'y a en toute rigueur pas encore véritablement eu de philosophe. Jusqu'à ce jour, il lui arrive de demander est-ce que la philosophie est enfin devenue possible aujourd'hui.
Le terme de possible est décisif ici pour comprendre l'entreprise nietzschéenne. Je vous propose qu'on écoute un texte tout de suite issu de la généalogie de la morale. C'est le paragraphe 10 du troisième livre de la généalogie, interprété ici par Georges Clès.
L'esprit philosophique a toujours dû commencer par emprunter le déguisement et le cocon des types préalablement fixés du contemplatif, prêtre, magicien, devin, religieux de manière générale, pour être simplement possible. Dans une certaine mesure, l'idéal ascétique a longtemps servi d'apparence extérieure, de présupposé d'existence au philosophe. Il lui fallait le représenter pour pouvoir être philosophe, il lui fallait y croire pour pouvoir le représenter. La position d'écart spécifique du philosophe, niant le monde, hostile au sens, refusant d'accorder foi au sens, désensualisé, qui s'est maintenue jusqu'à l'époque la plus récente, et qui, se faisant, a presque réussi à se faire passer pour l'attitude de philosophe en soi, est avant tout une conséquence de la situation critique caractérisant les conditions dans lesquelles, de manière générale, la philosophie est apparue et a subsisté. En ceci que, pendant la période la plus longue, la philosophie n'aurait pas été possible du tout sur Terre sans une enveloppe et un habillage ascétique, sans une mécompréhension ascétique d'elle-même. Pour l'exprimer de manière claire et évidente, c'est le prêtre ascétique qui a offert jusqu'à l'époque la plus récente la forme de chenille repoussante et ténébreuse sous laquelle, seuls, on permit à la philosophie de vivre et de ramper. Cela a-t-il vraiment changé ? L'animal ailé, multicolore et dangereux, l'esprit qu'habitait cette chenille, a-t-il réellement fini, du fait d'un monde plus ensoleillé, plus chaud, plus lumineux, par jeter sa soutane aux orties et se voir autorisé à accéder au jour ? Existe-t-il dès aujourd'hui assez d'orgueil, de sens du risque, de courage, d'assurance, de volonté de l'esprit, de volonté de responsabilité, de liberté de la volonté, pour que désormais sur Terre, le philosophe soit vraiment possible ?
Il faut bien préciser, Patrick Wuttling, que lorsque Nietzsche parle du prêtre ascétique, il ne fait pas simplement référence à un modèle chrétien. Certes, il essaye de dissocier la philosophie du christianisme, mais c'est aussi une attitude générale à l'égard de l'existence qui consiste à être légèrement en retrait et surtout à ne pas philosopher avec le corps, ce qui est si important pour lui.
Oui, plus que légèrement en retrait, très franchement en retrait par rapport à l'expérience réelle, à l'expérience sensible. Alors effectivement, ça peut paraître un peu curieux que Nietzsche fasse un détour, semble-t-il, par le domaine du religieux pour expliquer quelque chose qui touche en fait au statut du philosophe. Pourquoi est-ce que le philosophe est pensé sur le modèle du prêtre ascétique ? Bien parce que à partir du moment où on a identifié la radicalité, donc l'activité philosophique à la recherche de la vérité, immédiatement cette vérité a été pensée comme quelque chose qui est stable, qui est invariant, donc a été opposé au sensible, à l'univers sensible. Il y a ascétisme à partir, dans le vocabulaire de Nietzsche, on parle d'ascétisme à partir du moment où il y a mépris et condamnation du sensible, et en particulier du corps, vous avez raison. On s'est donc trouvé, mais ceci, le point important, c'est que les philosophes ont vécu cela sans en avoir véritablement conscience, sans le réfléchir. On s'est trouvé dans une situation très paradoxale, où finalement la pensée, émanant effectivement du corps, pour Nietzsche, en est venu à nier et la réalité et surtout la valeur du corps et du sensible. On s'est trouvé dans une sorte de situation de monde à l'envers, de monde retourné. Nietzsche dit assez souvent qu'on a mis justement la vérité sur la tête. Le malheur est que cette erreur est devenue une fatalité. Elle a perduré dans la tradition philosophique. Parce que, précisément, aucun philosophe n'a fait preuve de suffisamment d'esprit critique, de liberté d'esprit, alors que le philosophe devrait se définir comme ça, normalement, pour identifier cette situation intenable, et surtout cette trahison de l'idéal de départ.
Lorsqu'il dit que le philosophe est possible, il définit aussi, là ça fait un lien direct avec ce qu'on disait sur l'avenir. C'est-à-dire que proposer une philosophie de l'avenir, c'est aussi se permettre de penser que cette figure du philosophe bien comprise est possible. Et donc nous pouvons œuvrer en ce sens.
Oui, tout à fait. Le philosophe est à venir d'abord dans ce sens-là. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de textes, par exemple dans Barre de la bien et mal, Nietzsche affirme sur un mode un petit peu énigmatique, parce que ça a l'air d'une affirmation un peu prophétique, ce qui n'est pas tout à fait quand même en accord avec ce qu'il veut faire, mais il signale qu'il voit l'apparition prochaine de ces philosophes nouveaux, de ces philosophes qui comprendront vraiment ce qu'est la tâche réelle, authentique, légitime du philosophe. En effet, avenir, ouais. ça a d'abord ce sens-là, effectivement. Oui.
Et alors, quelle est-elle, cette tâche du coup du philosophe à venir ?
Elle consiste à comprendre que la mise en œuvre de la pratique, une pratique philosophique qui soit fidèle à cet idéal de la philosophie, c'est-à-dire le respect de la demande de radicalité que traduit l'idée de philosophie, doit mener à une réflexion en termes de valeurs. Ce qui est le plus radical, ce qui est la source même du conditionnement de toute vie, et par conséquent de toute pensée, ce sont les valeurs. La vérité qu'on a pris pour un principe, pour une essence, pour quelque chose donc qui a une existence absolue, séparée, sans origine, la vérité n'est qu'une valeur. C'est-à-dire quelque chose qui, dans certaines cultures, c'est le cas de la nôtre, mais pas de toutes. Aucune nécessité d'admettre le primat de la vérité pour vivre, pour un être humain. Dans certaines cultures, donc, cette valeur, cette exigence, donc une valeur c'est d'abord ça, c'est une exigence de vie, a été placée au cœur même de la construction des communautés humaines. Nous avons vécu avec cette idée depuis Platon, et le christianisme ensuite est venu renforcer, confirmer sur un mode plus populaire, cette idée au départ philosophique. Mais nous avons vécu dans une culture dans laquelle nous avons considéré, et nous continuons à le faire, qu'il n'y a pas d'exigence plus fondamentale que de rechercher sincèrement la vérité.
Mais la vérité existe-t-elle pour Nietzsche ou est-ce qu'il y a
non,
des
précisément,
vérités,
la vérité est une interprétation, mais comme toute chose, puisque Nietzsche va montrer, ce sera une des conséquences de la rigueur de cette analyse, que ce qui est faux, si vous voulez, c'est l'idée générale d'objectivité, l'idée qu'il y aurait une réalité en soi et pour soi. Nous n'avons pas moyen d'accéder, nous autres vivants, à autre chose qu'à des interprétations. Notre rapport au réel est celui-là. Donc l'idée d'une vérité qui serait un absolu totalement inconditionné, c'est une chimère, effectivement. Mais on peut croire à une chimère. On peut régler sa vie en fonction d'une chimère. Ça, on passe sur le plan pratique. Et ce que Nietzsche montre, finalement, avec cette idée de la philosophie de l'avenir, c'est que la philosophie, ce qui s'est joué dans la philosophie depuis le début, et de cela, il faut désormais prendre conscience, c'est une affaire pratique, bien plus qu'une affaire théorique, c'est une manière de vivre qui a été réglée.
Mais ça, c'est très difficile à comprendre quand on lit Nietzsche, comme on peut lire n'importe quel autre philosophe, c'est que la dimension pratique est quand même exprimée et décrite de manière théorique, en tout cas dans ses écrits. C'est oui. Que finalement, si on se place d'un point de vue vraiment extérieur à l'histoire de la philosophie, on a du mal à voir dans quel sens Nietzsche se distingue vraiment des autres philosophes.
Ah oui, vous avez tout à fait raison. On a accès à sa pensée, comme on a accès à la pensée des autres philosophes à travers des textes et des écrits. Et donc, en effet, à première vue, on est tenté, et c'est là l'écueil fatal, dans le cas de Nietzsche, de le traiter comme on traiterait les autres philosophes. Alors, les techniques aussi bien de déchiffrage, de lecture de ces textes, que les rouages, si vous voulez, logiques, disons, de son raisonnement, sont extrêmement différents, malgré les apparences de ce qu'on trouve chez les autres philosophes. Mais vous savez aussi que Nietzsche a toujours dit et répété qu'il ne voulait pas n'importe quel lecteur. Il ne se prive pas de compliquer sérieusement la tâche à son lecteur parce qu'il veut lui faire en quelque sorte subir un test. Le lecteur pressé, le lecteur qui ne veut pas trop se fatiguer, s'embarrasser, qui aimerait bien pouvoir utiliser les confortables habitudes d'élucidation des textes qu'on applique à Descartes, à Kant, à d'autres. Mais celui-là, Nietzsche a tout fait pour qu'il fasse fausse route, qu'il ne parvienne pas à entrer au cœur de son questionnement.
Alors on va essayer ensemble, Patrick Wöttling, au contraire, de le faire entrer, hein, peut-être grâce à vous, dans ces textes exigeants de Nietzsche, notamment à partir d'une phrase très, très étrange et très, très forte que vous avez choisie d'ailleurs comme titre de votre livre. Oui, l'homme fut un essai. On va voir dans un instant ce que c'est que cet essai.
Try. just a little bit harder.
Et oui, essayez-vous aussi. L'homme fut un essai, c'est Nietzsche qui le dit, et c'est le titre que le Nietzsche et un Patrick Voeckling a choisi de donner à son dernier essai qu'on trouve aux éditions PUF, c'est le cas de le dire, un essai dans un essai. La philosophie de l'avenir selon Nietzsche, c'est le sujet du jour. Allez, c'est sous les encouragements de Janis Joplin qu'on va continuer à essayer de comprendre Nietzsche grâce à vous, Patrick Voeckling. Alors, la formule « l'homme était un essai », on la trouve chez Nietzsche lui-même, on la trouve dans « Ainsi parlait Zarathoustra », le paragraphe 2 de « La vertu qui prodigue ». C'est un texte magnifique. Alors, Nietzsche, en général, ce n'est pas seulement une sacrée aventure que s'intéresser à sa pensée, mais aussi de le lire. C'est un philosophe qui s'apparente parfois, qui prend des airs de poète, hein, tellement sa phrase est travaillée et sublime, même si on n'en comprend pas toujours le sens, ça marque toujours, il y a une sorte d'empreinte dans le corps qui reste après la lecture de Nietzsche. Et avant d'entendre ce texte-là, qu'on va donner à entendre en entier, puisqu'il est très beau et interprété par Georges Auclès, de bonnes raisons de l'entendre en entier, peut-être, Patrick Voeckling, pouvez-vous nous aider à introduire ce texte pour qu'on sache à quoi faire attention en l'écoutant?
Alors, il faut faire attention, je pense, à deux choses essentiellement, puisque vous avez parfaitement raison, ce texte est, comme tout Zarathoustra, est magnifique, on peut se laisser fasciner, bercer, un peu comme avec de la poésie, et il faut ajouter une couche de réflexion, comme dans la poésie aussi, du reste, et c'est justement la difficulté. Les deux idées fondamentales qui sont développées par ce texte sont les suivantes. D'une part, le primat du corps, c'est-à-dire l'homme est avant tout corps. On y reviendra peut-être après, on verra que ça veut dire fondamentalement pulsion. Et la deuxième chose, c'est que il y a mille manières de vivre et d'incarner la vie pour un être vivant. C'est celle que nous avons choisie, nous, Européens. Beaucoup, nous dit Nietzsche, beaucoup d'erreurs et de dangers se sont incarnés. Le développement de l'homme s'est fait au hasard. Il s'agit maintenant pour le philosophe d'intervenir en médecin, de devenir médecin de soi-même et médecin de l'humanité. Les deux lignes d'analyse principales, il y a beaucoup d'autres choses, mais les deux principales sont celles-ci dans ce texte.
Alors écoutons ce texte.
Ici, Zarathoustra se tut quelques instants et regarda ses disciples avec amour. Puis, il continua à parler ainsi et sa voix s'était transformée. Restez fidèles à la terre, mes frères, avec la puissance de votre vertu. Que votre amour prodigue et que votre connaissance serve le sens de la terre. Je vous en prie et vous en conjure. Ne la laissez pas s'envoler du terrestre et cogner des ailes contre des murs éternels. Hélas, il y a toujours eu tant de vertus envolées. Ramenez, comme moi, la vertu envolée à la terre, au corps et à la vie, pour qu'elle donne son sens à la terre, un sens humain. L'esprit, tout comme la vertu, s'est dispersé et s'est mépris jusque-là de 100 manières diverses. Hélas, dans notre corps, habitent encore toutes ces illusions et toutes ces méprises. Elles y sont devenues corps et volonté. L'esprit, tout comme la vertu, s'est essayé et s'est égaré de 100 façons différentes. Oui, l'homme était un essai. Hélas, beaucoup d'ignorance et d'erreurs se sont incarnées en nous. Ce n'est pas seulement la raison millénaire qui se manifeste en nous, mais aussi la folie millénaire. Il est dangereux d'être héritier. Pour l'instant encore, nous luttons pied à pied avec le géant nommé hasard, et sur l'humanité entière a régné jusque-là ce qui est insensé, ce qui a perdu le sens. Que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre, mes frères. et que vous établissiez pour toute chose une valeur nouvelle. C'est pourquoi vous devez être des combattants, c'est pourquoi vous devez être des créateurs. Par le savoir, le corps se purifie. En faisant des tentatives avec science, il s'élève. Tous les instincts se sanctifient en celui qui accède à la connaissance. L'âme de celui qui s'est élevé devient joyeuse. Médecin, aide-toi toi-même. Ainsi tu aideras ton malade de surcroît. Que ce soit son aide la meilleure, qu'il voie de ses yeux celui qui se guérit lui-même. Il existe 1000 autres chemins qui n'ont encore jamais été empruntés, 1000 santé, 1000 îles secrètes de la vie. L'homme et la terre de l'homme ne sont toujours pas épuisés, toujours pas découverts. Veillez et écoutez, vous les solitaires. Il vient de l'avenir des souffles de vent aux secrets battements d'ailes, et pour qui a l'ouïe fine, il y a de bonnes nouvelles. Vous, les solitaires d'aujourd'hui, vous qui vous retirez à l'écart, vous serez un peuple un jour. De vous qui êtes vous-même élu, naîtra un peuple élu, et de lui naîtra le surhumain. En vérité, c'est un lieu de guérison que doit devenir la terre. Déjà, une nouvelle odeur l'entoure, une odeur salutaire et un espoir nouveau.
Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Alors quand on découvre ce texte un peu comme on entend un poème, hein, Patrick Voetling, ce qui frappe, ce sont ces deux formules sur lesquelles je vous propose de repartir maintenant. Oui, l'homme fut un essai et l'idée même de surhumain, de lui, de ce nouveau peuple naîtra le surhumain. Comment comprendre cette formule autrement que, bah, comme l'extrait de l'homme qui valait 3 milliards, hein, la série qui donne à voir la volonté de reconstruire un homme bionique qui sera meilleur qu'avant. Est-ce que c'est ça que Nietzsche entend par le terme de surhumain?
Pas tout à fait, mais c'est pas, disons, dans la direction, il s'agit pas de bio-ionique naturellement, mais dans la direction, l'intention générale, il y a tout de même des choses qui ne sont pas totalement étrangères. Bon, il ne s'agit pas d'une amélioration technique, il ne s'agit pas d'une mutation biologique ou de choses de cet ordre-là, pour la bonne raison, je le dis rapidement, mais que de toute façon, la scientificité, et la biologie en particulier, ne nous fait pas plus accéder à des vérités absolues que n'importe quoi d'autre, puisqu'il n'y a pas de vérité. Ce sont également des modes interprétatifs, des manières interprétatives de se rapporté au réel. La philosophie peut, aux yeux de Nietzsche, ici faire quelque chose de plus précis, donner des analyses plus précises. Et le résultat de ces analyses est que le vivant, et l'homme en particulier, est un ensemble de, fondamentalement, de pulsions, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de réalité matérielle. Les pulsions ne sont pas des organes. La matière organique, si vous voulez, c'est une certaine manière de percevoir ce qui se trouve derrière, ce qui est réel, à savoir ces régulations organiques, ces processus que Nietzsche appelle parfois, il les appelle le plus souvent instinct ou pulsion, mais c'est un équivalent de volonté de puissance. C'est un terme qu'il utilise beaucoup moins, mais ça veut dire ça. Donc un processus qui tend spontanément à l'intensification de la force, grosso modo à sa propre intensification. L'homme, c'est un ensemble de choses, de pulsions, donc qui sont réglées de cette manière-là et qui expriment avec des modalités extrêmement, extrêmement diverses, des modalités en particulier affectives, passionnelles, très, très diverses, et bien des façons d'organiser pour la vie, d'essayer de s'intensifier, de perdurer. Bon, quand on a compris que l'homme, c'est cela, si on ajoute cette couche supplémentaire que ces pulsions sont liées à des valeurs, qu'elles sont le produit de valeurs, c'est-à-dire qu'elles apparaissent, elles se définissent, et éventuellement elles se modifient dans le cours du temps en fonction des priorités de vie, égale les valeurs, hein, ce que Nietzsche appelle les valeurs, c'est ça, les priorités de vie, les conditions de vie fondamentales, alors on comprend que l'homme est un héritier.
Donc, ces conditions de vie, ces valeurs, sont définies par la société cette fois-ci, ou par la culture, pas par l'homme lui-même.
Oui, mais ça revient au même, puisque c'est toujours un groupe humain qui a fixé cela. Généralement, les fondateurs de morale et de religion, enfin dans l'histoire humaine telle qu'on l'a connue comme ça, fondamentalement, ça a été cela. Les valeurs ont été fixées, par exemple, la vérité, pour nous, a été fixée alors en l'occurrence par le platonisme, mais relayé et renforcé par le christianisme par la suite. Donc ce sont effectivement des cultures ou des groupes sociaux, derrière il y a certains hommes. Simplement, ce que Nietzsche dit, c'est que c'est comme si c'était le géant hasard, le fameux géant hasard dont il nous parle dans ce texte, qui avait régné là-dessus, c'est-à-dire que ces choix n'ont pas été faits de façon réfléchie, ils n'ont pas été faits en fonction de la considération des possibilités d'épanouissement de la santé humaine. Il y a mille manières de vivre. Il y a mille manières de vivre, et comme le dit Nietzsche dans le texte qu'on vient d'entendre, il existe mille chemins qui n'ont encore jamais été empruntés, mille formes d'organisation de la vie humaine. Il s'agit pour le philosophe de comprendre là-dedans, non pas qu'elle est là, mais quelles sont les, car il y en a vraisemblablement plusieurs, manières de vivre qui auront pour effet de développer la santé et non pas la maladie, c'est-à-dire la négation, le sentiment pessimiste, le rapport pessimiste à l'existence qui nous caractérise, nous, Européens modernes. Donc voilà, vous voyez, la différence avec la recomposition bio-ionique est spectaculaire, mais l'intention est effectivement de faire progresser la forme de la vie humaine, pas dans le sens d'une amélioration des performances sportives ou techniques, évidemment, il ne s'agit pas de ça. Nietzsche essaie de faire comprendre quel est le but à atteindre en utilisant généralement l'image de la santé, c'est pourquoi on peut parler aussi d'épanouissement, comme je le faisais tout à l'heure.
Et ce surhomme dont il parle, ou le surhumain,
oui.
Est-ce que nous sommes tous candidats à devenir surhomme, ou est-ce que ça concerne qu'une partie de l'humanité ?
Je ne sais pas si nous sommes candidats, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la perspective de Nietzsche n'est pas une perspective eugéniste. Je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, d'autres lecteurs et commentateurs de Nietzsche tout à fait estimables ne sont pas de mon avis sur cette question, il me semble que l'objectif, si vous voulez, pour le dire plus simplement, ce n'est pas de transformer l'humanité en une sorte de peuple de surhomme. Nietzsche n'a jamais dit ça. Ça n'est pas non plus une sorte de caste ou de secte supérieure ou aristocratique qui serait censée, avoir la haute main, finalement, politiquement parlant, sur les destinées de l'humanité. Quand Nietzsche pense le surhumain, ce dont il... L'objectif d'Ainsi parler Zarathoustra, c'est de donner une idée de ce surhumain qui est difficile à comprendre. C'est une forme supérieure de vie, c'est-à-dire une forme affirmatrice de vie. C'est ça qu'il essaie de penser, la forme suprême de l'affirmation. Et il s'agit de faire aller l'humanité dans cette direction-là, la direction générale de l'affirmation. Mais j'ajoute ce bémol qui est trop souvent oublié par les commentateurs et qui est capital pour comprendre les intentions de Nietzsche. Nietzsche répète clairement à de très nombreuses reprises qu'il est de la nature de la vie d'exister sous des formes différenciées. L'une des choses qu'on peut reprocher justement aux religions, aux systèmes politiques et moraux tels qu'ils ont existé, c'est d'avoir toujours voulu uniformiser l'homme, imposer un modèle unique de perfection, qui par ailleurs n'était pas parfait, mais ça c'est un autre problème. Mais l'idée de l'unicité et du même pour tout le monde...
La conformité,
okay, ouais. Exactement, à un idéal. Il ne s'agit pas de refaire la même erreur avec le surhumain. Nietzsche vous dit simplement qu'en travaillant à modifier les valeurs pour, en quelque sorte, améliorer, faire s'épanouir davantage la forme humaine d'existence, on verra probablement apparaître par-ci, par-là, parce qu'il vous dit que ce n'était pas contrôlable, évidemment, et ce n'est pas programmable à l'avance, des réussites supérieures, c'est ça qu'il appelle surhumain. L'humanité s'est parfois approchée déjà de ce genre de choses. Et les exemples que Nietzsche cite sont assez étonnants parce que c'est pas ce à quoi on penserait nécessairement. Ce sont des artistes. Il évoque Stendhal, il évoque Shakespeare comme étant des espèces de préfigurations du surhumain. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la perspective sociopolitique qu'on pourrait attendre. Il s'agit pas du tout de cela. Simplement, le problème, c'est que ces formes supérieures de vie, par exemple la gaieté stendhalienne, le bélisme, c'est très proche finalement de ce que Nietzsche essaie de penser. C'est apparu au hasard. C'est le géant hasard qui a gouverné l'histoire humaine, et c'est cela que le philosophe doit changer.
Il y a peu de douleurs aussi vives que d'avoir une fois vu, deviné, senti intimement comment un homme extraordinaire s'est égaré hors de son chemin et a dégénéré. mais qui possède cet œil d'exception, qui sait voir le danger global que l'être humain lui-même dégénère, qui, comme nous, a reconnu le hasard monstrueux qui a joué son jeu jusqu'à présent pour ce qui est de l'avenir de l'homme, qui devine la fatalité que cache la stupide ingénuité des idées modernes et la confiance aveugle qu'on leur fait, plus encore toute la morale chrétienne de l'Europe, eh bien celui-là est étreint par une angoisse qui ne se compare à nul autre. Il saisit d'un seul regard tout ce que, au moyen d'une accumulation et d'une intensification favorable de forces et de tâches, l'on pourrait faire de l'homme à force d'élevage. Il sait, de tout le savoir de sa conscience, combien l'homme est encore loin d'avoir épuisé les plus grandes possibilités, et combien de fois déjà le type d'homme s'est trouvé face à des décisions mystérieuses et des voies nouvelles. Il sait mieux encore, du souvenir le plus douloureux, sur quel genre de choses pitoyables jusqu'à présent, un être de rang suprême en cours d'évolution s'est d'ordinaire fracassé, brisé, abîmé, jusqu'à en devenir pitoyable. La dégénérescence d'ensemble de l'homme, sombrant jusqu'à l'homme de l'avenir tel qu'il apparaît aujourd'hui aux balours socialistes et aux esprits plats, leur idéal, cette dégénérescence et ce rapetissement de l'homme transformé en parfait animal de troupeau, cette bestialisation de l'homme transformé en animal nain aux droits égaux et aux prétentions égales est possible, cela ne fait aucun doute. Qui a médité cette possibilité jusqu'à son terme connaît un dégoût de plus que le reste des hommes et peut-être aussi une tâche nouvelle. Nietzsche est aussi radical qu'impitoyable, mais aussi, et sans doute peut-être grâce à ça, la lecture de ces textes est extrêmement encourageante en réalité.
Oui,
c'est sa sévérité, bien loin de nous abattre, au contraire, nous donne envie de croire en ce qu'il dit.
Et donc de croire. Vous répondez à la question que vous posiez tout à l'heure. Comment se fait-il qu'il y ait plus, alors que sa pensée nous est livrée par des textes d'une facture apparemment assez classique, comment se fait-il qu'il y ait plus, qu'il y ait un rapport à cette dimension pratique? Ces textes, justement, vous donnez une très bonne réponse à la question que Nietzsche pose et qu'on a le droit de lui poser. Ces textes ont cette fonction pratique. Ils doivent l'avoir également. Ils doivent transmettre un sentiment d'affirmation et produire une sorte d'effet d'entraînement, en quelque sorte, non pas simplement exposer théoriquement des idées.
Mais là, en l'occurrence, il parle de l'élevage de l'homme. Hein. C'est un autre extrait de Part de la bien et mal, le paragraphe 203. Qu'est-ce que ça signifie? Là aussi, élevage, on a l'impression que lui-même s'adresse à l'homme comme à un troupeau. Or, il dénonce le caractère bestial de la société humaine.
Oui, vous avez raison. Il lui arrive, effectivement... Il est vrai qu'il faut traduire strictement le terme qu'il emploie en allemand par
élevage. C'est votre traduction que je lis, d'ailleurs.
Oui, absolument, j'en assume toute la responsabilité. je précise ce choix. Il utilise un terme qui, en allemand, veut dire élevage, qu'on utilise, effectivement, pour désigner les activités agricoles, disons, l'élevage des plantes ou des animaux. Et donc, c'est assez surprenant. Ça paraît effectivement une position extrêmement méprisante à l'égard de l'humanité. Et Nietzsche le dit parfois, effectivement, il arrive, il s'en excuse quasiment. Dans Le Gai Savoir, il y a un texte en particulier où il dit nous savons bien tout ce que les sentiments de choquants que vont ressentir les lecteurs en nous voyant traiter l'homme comme un animal systématiquement. Il veut dire la chose suivante, c'est que il faut prendre élevage comme un modèle. C'est un modèle d'intelligibilité qui veut dire quelque chose. De même que on sait, jusqu'à un certain point, transformer des animaux de manière à optimiser leur performance, par exemple faire au terme d'un certain processus d'élevage, d'obtenir plutôt des chevaux de course que des chevaux de résistance, des choses de cet ordre-là. Bon, ce genre de sélection montre qu'il y a une possibilité d'intervention pour modifier la façon dont la vie est organisée chez l'homme. Donc c'est un modèle d'intelligibilité, l'élevage. L'homme est par ailleurs un animal comme tout vivant, ni plus ni moins, c'est-à-dire un ensemble de pulsions. On peut agir sur ces pulsions, on peut modifier les valeurs. C'est pour ça que le philosophe, en tant que figure radicale, est possible. Tout est conditionné par les choix de valeurs, n'est-ce pas? C'est de cela que découle la manière dont la vie humaine s'organise dans une culture particulière, et il est possible d'agir sur ces valeurs. Il est possible, c'est très difficile. Hein, c'est très difficile.
D'en créer même de nouvelles.
Et d'en créer.
Le philosophe doit créer des valeurs.
Absolument. Vous venez de rappeler, j'allais y venir, et je réponds à l'autre question que vous me posiez tout à l'heure, la manière dont Nietzsche redéfinit le philosophe dans le paragraphe 211 de Part de la bien et mal. Il le dit très clairement, le philosophe, ça n'est pas un savant, ça n'est pas une sorte de super savant ou d'érudit. érudit, c'est un créateur de valeurs. C'est un législateur. Sa tâche véritable, c'est d'intervenir au niveau des valeurs de manière à bloquer, à neutraliser les valeurs de décadence, les valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui font éprouver la vie comme une calamité, comme une chose dénuée justement de signification et dont il faut s'évader au plus vite, ce qui est cette vision pessimiste des choses étant ce qui se répand dans l'Europe du XIXe siècle et qui entraîne l'humanité européenne probablement vers sa perte. Donc il est urgent d'intervenir et c'est précisément par une réflexion sur les techniques permettant de modifier les valeurs que Nietzsche va y répondre.
Au fond, il y a quelque chose d'assez rousseauiste chez Nietzsche. J'y pense qu'on vient de consacrer la semaine d'émission des Nouveaux Chemins au second discours de Rousseau, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, dans lequel Rousseau, à la suite du premier discours, montre que l'homme seul pourrait disons être dans une espèce de plénitude d'existence, et c'est dès lors qu'il rencontre les autres et qu'il s'installe en société que son cœur se corrompt, nous dit Rousseau, mais que on pourrait dire chez Nietzsche que finalement cette espèce de sentiment de pessimisme apparaît. Oui, c'est ça. Est-ce que finalement chez Nietzsche il n'y a pas cette idée que l'homme seul dans une espèce d'élan vitaliste pourrait être dans une posture disons encourageante à l'égard de l'existence quand c'est la société qui l'écrase.
C'est un rapprochement très original que vous suggérez, vous me prenez un petit peu de coup, faudrait y réfléchir plus longuement. Disons que ce qui est un petit peu différent tout de même, c'est que Nietzsche, qui par ailleurs est toujours hyper critique à l'égard de Rousseau, et ouais, injustement critique, ça vous le savez. Ce qui est un petit peu différent malgré tout, c'est que la question de la problématique de la solitude ou de la vie en société n'existe pas véritablement chez Nietzsche. C'est l'homme est d'emblée un animal social. C'est comme ça.
Je pourrais poser la question autrement. Est-ce que pour Nietzsche, le pessimisme a uniquement pour cause la société, l'air du temps, l'esprit, ou bien est-ce qu'un homme seul, et on pourrait très bien concevoir que ce surhomme auquel il en appelle, spontanément, naturellement, j'ai envie de dire par son caractère, un homme pourrait ne pas vouloir suivre cette trajectoire-là,
sans que ce soit
la faute de la société.
C'est bien ce qui s'est passé, selon Nietzsche. C'est bien ce qui s'est passé. Stendhal, pour m'en tenir à ce cas, qui est un des plus compréhensibles et connus pour nous, Européens, Stendhal vit dans une culture qui est déjà marquée, par depuis des siècles, par un christianisme lénifiant, suscitant le pessimisme et la généralisation de la dépréciation du sensible et du monde, et ça ne l'empêche pas d'être un exemple quasi parfait de l'affirmation de ce qu'il appelle la gaieté d'esprit. D'ailleurs, là encore, question de traduction, cette formule est une formule empruntée à Stendhal, gaieté d'esprit, elle rend bien ce que Nietzsche dit en allemand par un autre terme. C'est la caractéristique principale du gai savoir, c'est-à-dire d'une forme d'affirmation qui justement caractérise cette pente ascendante que Nietzsche, sur laquelle Nietzsche essaie de mettre l'humanité, et dont les formes suprêmes d'épanouissement, si elles se produisent un jour, correspondront à ce qu'il pense par la notion de surhumain. Donc effectivement, oui, l'individu, il y a une pression culturelle, j'irais plutôt culturelle que sociale, une pression culturelle parce que c'est la culture qui fixe finalement les priorités qui vont devenir les valeurs, qui pour l'immense majorité des gens est un effet d'entraînement auquel il est difficile de résister, mais il y a toujours effectivement des exceptions, il y a toujours des gens qui, pour des raisons mystérieuses, en raison d'un conditionnement particulier, d'une liberté d'esprit particulière, en effet, vous avez raison, parviennent à s'affranchir de la contrainte de ses valeurs et à vivre au cœur d'une société pessimiste, une existence qui est une existence d'affirmation. Stendhal est un très bel exemple, je trouve.
Vous avez évoqué la question de la culture, on ne va pas s'y aventurer maintenant, parce qu'il nous reste à peine une minute de discussion, mais dans votre livre, vous consacrez un chapitre, un article, justement, à cette question de la culture qui est redoutable chez Nietzsche, qui est très difficile de saisir et qui pourtant articule beaucoup de problématiques qui sont complètement nietzschéennes.
C'est la question fondatrice, en fait.
C'est ça. Voilà. Bon, vous reviendrez en parler une autre fois. Un tout dernier point, et on terminera là-dessus. Nietzsche ne cesse de s'insurger, de dénoncer les rapports de hiérarchie, de commandement, d'asservissement à autrui. Et pourtant, dans le texte que vous citiez tout à l'heure, le paragraphe 211 de Par-delà bien et mal, il dit « Les philosophes véritables sont des hommes qui commandent et qui légifèrent. Ils disent « Il en sera ainsi ». Comment justifie-t-il cette posture dominante du philosophe ?
Toute hiérarchie n'est pas bonne à prendre. Même si on défend l'idée de hiérarchie, on n'est pas obligé d'accepter n'importe quelle hiérarchie. Ça s'explique par le fait que, justement, le philosophe a pour mission, non pas simplement de commander, d'être un tyran, un despote et d'imposer n'importe quoi, mais de légiférer en matière de valeurs au nom de l'épanouissement de l'humanité. Il est censé avoir, c'est lui qui est censé se substituer au géant hasard et donc réfléchir, mettre en œuvre un certain nombre de techniques pour savoir quelles sont les valeurs qu'il est préférable d'imposer au profit de l'humanité.
Forcer les gens à être heureux ou gais ?
En tout cas, les extirper, vous êtes une bonne objection que vous formulez là. On pourrait peut-être effectivement se demander si Nietzsche n'est pas critiquable sous cet aspect-là. C'est certainement une chose à laquelle il faudrait réfléchir. Ce qui est certain, c'est qu'il prétend en effet les tirer, en tout cas, de la spirale suicidaire, la spirale d'anéantissement dans laquelle les valeurs ascétiques les ont placées.
The Superman de David Bowie, qui lui-même savait de quoi il parlait. Un grand merci à vous, Patrick Wetlington, pour nous parler de Nietzsche aujourd'hui.
Merci beaucoup, Adèle.
Et je renvoie les auditeurs à votre ouvrage. Oui, l'homme fut un essai, la philosophie de l'avenir selon Nietzsche, un ouvrage passionnant, très précis, très complet et très encourageant à l'image de la philosophie de Nietzsche qu'on trouve aux éditions PUF sur France Culture. Il est 10h46. C'est l'heure, comme tous les vendredis, de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Alors cette semaine, à qui avez-vous choisi de dispenser vos conseils ?
Eh bien pas à François Hollande et à son courage de renoncer, mais à un autre François, François Fillon, le grand gagnant de la primaire de la droite et du centre, qui lui mise tout sur le courage de la vérité.
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout.
À chaque candidat, son slogan. Alors au choix, l'insoumission de Jean-Luc Mélenchon, l'identité heureuse d'Alain Juppé ou encore le Made in France d'Arnaud Montebourg. Et puis il y en a d'autres qui optent pour des concepts vieux comme la philosophie et les déclinent même en spot de campagne.
J'ai toujours été le candidat de la vérité et je ne varierai pas. Et ce soir, je vous dirai encore la vérité. Parce que aucune politique de transformation ne peut être basée sur des mensonges.
François Fillon est la vérité, et même le courage de la vérité, car c'est bien ce qu'on peut lire sur les affiches placardées lors de ses meetings. François Fillon est le courage de la vérité donc. Une longue histoire, puisqu'il y a déjà 10 ans, en 2006, le candidat républicain avait publié son premier ouvrage sous le titre « La France peut supporter la vérité ». Mais c'est bien avant 2006 qu'il faut en fait remonter pour découvrir cette expression, et pas chez un homme politique, mais chez Michel Foucault. Le courage de la vérité, ou le titre de ses derniers cours donnés au Collège de France en 1983-84, et c'est bien à une figure antique que Foucault remonte quant à lui pour développer ce que semble prôner et incarner aujourd'hui François Fillon.
Le vrai comme à la fois forme d'existence. Le cynique, c'est celui qui a le courage de dire vrai. Le cynique est celui qui est chargé d'annoncer la vérité.
Aux Français, j'ai toujours dit la vérité. J'ai dit que la France était en faillite, avec une dette insoutenable, avec des dépenses publiques et surtout une bureaucratie qui étouffe les initiatives, qui empêche les Français d'aller au bout de leurs projets, d'aller au bout de leurs rêves, qui les bloque dans leur vie, sans pour autant les protéger. Notre pays est en train de se défaire.
À écouter Foucault puis François Fillon, le parallèle est troublant. François Fillon serait comme la figure actualisée du cynique de l'Antiquité, celui qui a le courage de dire vrai et de dévoiler, contre tous les mensonges que l'on entend, que la France est en faillite. François Fillon, avec son courage de la vérité, serait-il donc notre candidat cynique qui choque les conventions, notre candidat courage? Eh bien, rien n'est moins sûr en fait, car qui ne dit pas aujourd'hui que la France va mal? Qui oserait dire au contraire que la France va bien, surtout quand il s'agit de se faire élire pour proposer mieux? Et qui serait cynique au point d'avouer qu'il y a évidemment mensonge en période d'élection.
Le vrai comme à la fois forme d'existence, manifestation de soi, plastique de la vérité, mais aussi comme entreprise de démonstration, conviction, persuasion à travers le discours, cette vraie vie a pour fonction de montrer que tout en étant autre, ce sont les autres qui sont dans l'altérité, dans l'autre, dans l'erreur, qui sont là où il ne faut pas.
Si François Fillon ne dit pas plus vrai que les autres candidats, pourquoi donc ses paroles ont-elles alors paru plus vraies pour ses électeurs? Pourquoi les autres seraient-ils dans l'erreur et lui dans le vrai? Eh bien, c'est que, comme le dit Foucault, l'important de la vérité ne semble pas être tant dans la matière du discours que dans la manière de le dire et de le vivre. François Fillon ne dit pas en fait quelque chose de plus vrai dans le fond que les autres candidats, mais il s'en distingue en disant et en soulignant que lui, il dit vrai et que lui, il pratique la vérité en affirmant que lui, il a donc le courage de la vérité.
Pour obtenir le plein emploi en 5 ans, ce qui est le cas de la plupart des grands pays occidentaux, et pour être en moins de 10 ans la première puissance européenne. Pour y parvenir, on va avoir besoin de courage et de vérité. Alors je veux être le président du courage, le président de la vérité, le président de l'action et le président de l'honnêteté.
Honnêteté et vérité, action et courage, voilà donc le cocktail gagnant selon François Fillon. Des paroles vraies d'abord, puis des actes qui seront conformes ensuite. Mais jusqu'où l'argument de la vérité est-il tenable quand les actes pourront enfin parler pour eux-mêmes?
Géraldine, vous m'avez convaincue, moi je vote Michel Foucault.
Ah bah c'est pas mal Michel Foucault.
Mais en attendant, vous avez un conseil, un ultime conseil à François Fillon.
Mais oui, plutôt qu'il parle de sa vérité, car à convoquer la vérité comme si elle était une et éternelle, elle risque forcément de le ramener à la réalité, c'est-à-dire soit à la terrible banalité de ses promesses non tenues, ou alors à la formidable diversité des vérités tenues par les autres.
Qu'il vous entende, qu'il vous télécharge, chère Géraldine, puisque votre chronique est entièrement téléchargeable sur le site des Nouveaux Chemins. Merci à tous, merci à vous Géraldine, merci à vous Patrick Wettling qui est encore en studio, merci à Olivier Bétard qui a réalisé cette semaine, Bruno Gagnère-Fontanier à la prise de son aujourd'hui, le reste de l'équipe des Chemins, vous les connaissez peut-être, Marianne Chassor, Ariane Mintz, Antoine Ravon, Pierre Brossard. On vous donne rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter où nous mettons en ligne l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires et nous répondons à vos commentaires, mais oui. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine consacrée à Deleuze et la littérature. Proust, Henry James, Kafka et Beckett, ça, ce sera le programme de la semaine prochaine. Autant d'émissions que vous pourrez réécouter en ligne, mais aussi télécharger et podcaster pour les écouter absolument où vous voulez et quand vous voulez.